Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Zoom ce midi sur un métier qui séduit de plus en plus de monde alors même que les conditions sont de plus en plus dures, que la production de miel s'effondre et que les abeilles disparaissent. Et pourtant, il reste des puristes et des passionnés qui fabriquent un nectar d'exception tout en ayant une pratique respectueuse de l'environnement. C'est le pari de nos deux invités du jour, des artisans qui ont à cœur de préserver leurs abeilles et d'offrir les meilleurs miels aux mangeurs que nous sommes. Patrick Cholet, bienvenue et bonjour.
Bonjour.
Apiculteur pas comme les autres, Patrick Cholet, célébrez-vous en 2025 la 10e année de votre reconversion puisque vous êtes passé des champs pétrolifères aux champs mellifères, on peut dire comme ça, des plateformes aux ruchers. Vous êtes un apiculteur chercheur qui mobilise alors 250 ou 400 ruches.
Alors moi j'étais au départ à 400 et je suis redescendu puisque je pense qu'on ne peut pas mélanger et on ne peut pas avoir beaucoup d'abeilles et en même temps faire de la qualité.
Donc 250 aujourd'hui.
250.
Dans la création de miel rare et monofloraux, vous nous expliquerez comment on fait un miel monofloral et vous classez vos miels à peu près comme des vins. Vous êtes le fondateur de la miellerie Les Cadres Noirs Percherons, c'est aujourd'hui à Bonnétable dans la Sarthe, artisan d'excellence, prix Le Bay 2020 du meilleur producteur décerné par le guide des meilleurs restaurants d'Île-de-France. De fait, vous vendez vos miels aux meilleures tables du pays. Vous fournissez quelques 85 chefs étoilés, 155 chefs environ, avec des pâtissiers bien sûr dedans. Christian Moll, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en Ardèche. Votre miellerie, c'est la miellerie de Boissy. Vous êtes apiculteur depuis 1983 et vous avez 400 ruches, il me semble.
Je commence à réduire.
Vous aussi, vous commencez à réduire. Oui. Voilà. Vous avez différents miels.
300 ruches.
Là. Allez, 300. On va se mettre d'accord sur 300. Différents miels labellisés bio au goût classique. Vous pensez l'apiculture comme une pratique paysanne pour nourrir les gens avec des produits sains. Alors, Patrick Cholet, vous êtes dans la Sarthe. Avant, vous étiez dans l'Orne. Vous, Christian Moll, vous êtes en Ardèche. Est-ce que vous diriez qu'il y a des régions à miel, Patrick Cholet?
Alors, moi, je pense que des régions à miel, il y en a partout. Après, ça dépend, bien évidemment, de la botanique qu'on a en face, c'est-à-dire des fleurs qu'on a. Effectivement, je pense que dans l'Ardèche, on n'a pas les mêmes fleurs que nous dans la Sarthe, bien évidemment, puisque nous, on est quand même beaucoup plus humide et un petit peu plus frais. Mais il y a des bons miels partout. Après, il suffit de bien localiser où on a envie d'emmener nos abeilles.
Christian Moll.
Oui, je pense qu'il y a des régions qui sont plus favorables au niveau de la flore. Et puis, il y a aussi le climat qui joue beaucoup. Je pense comme ça, là, au sud de la France, où il y a beaucoup de zones naturelles. Mais il y a souvent un manque d'eau et une fleur pour sécréter du nectar qui va donner le miel. Enfin, une plante, elle a besoin de suffisamment d'humidité, sinon la priorité va aux feuilles et pas forcément au nectar.
Apiculteur, pour vous deux, c'est d'abord un métier que vous avez choisi par amour des abeilles, par amour du miel, enfin par goût du miel, par amour des fleurs. Patrick Cholet, je disais que c'est une reconversion chez vous qui date de 2015. Comment ça a commencé? C'est quoi qui vous a décidé?
Alors moi, ça a commencé d'abord parce que je suis fils de paysan. Voilà, c'est aussi ma jeunesse. Voilà, et puis j'ai formé un peu mes fils dans cette lignée, puisque j'ai un fils qui est phytosociologue, qui vient d'écrire une encyclopédie sur les plantes. Donc effectivement, moi vendant du pétrole avant, je préfère vendre du miel pour pouvoir avoir une discussion, on va dire intéressante avec mes fils. Et c'était surtout par rapport à la nature. C'est vrai que j'avais besoin d'avoir ce rapport avec la nature.
Christian Moll. Alors, vous, ça fait 40 ans, hein, donc je ne sais pas comment ça a commencé, disons, mais
ans, moi,
c'est quoi qui vous a décidé?
Un coup de foudre. Sans doute, ça s'est préparé avant, parce que mes parents ont reçu comme cadeau de mariage deux ruches, qui étaient au coin du jardin. Et puis, nous avons déménagé. Mes parents étaient paysans, et donc ils ont repris notre ferme dans le sud de la France. Et les ruches n'ont pas suivi. Mais après, quand pendant mon parcours en école d'agriculture, j'ai fait une formation à Hyères, hein, il y avait un petit club d'apiculture.
Et ça sonne bien chez vous, les cloches, hein. On les entend bien.
Ah oui, ça sonne.
Il est midi 5.
Et donc, il y avait un petit club d'apiculture et j'avais des camarades, d'ailleurs les plus sympas de la classe, qui ne parlait que d'abeilles, qui le matin, donc on était pensionnaires, qui quand le petit déjeuner était fini, ramassaient les carreaux de sucre pour nourrir leurs essaims en développement. Et puis un jour, je suis allé voir un mercredi après-midi, je suis allé voir une demi-journée là au club d'apiculture. Et le contraste entre l'extérieur d'une ruche qui est une boîte en bois, hein, qui est, y a pas grand-chose à voir. Et quand on ouvre et qu'on voit toute cette vie, la beauté de ce qu'on peut voir, c'était une période de mielée, donc la cire était magnifique, elle était lumineuse, ça grouillait d'abeilles, c'est complexe. Le jour même, j'ai dit, je ferais ça comme métier.
À la fin du printemps ou au début de l'été, certains jours, de l'intérieur de la ruche, on peut entendre retentir un chant flûté, un chant puissant qui ressemble à celui d'une cornemuse et qu'on appelle en anglais « piping ». C'est le chant triomphal d'une princesse qui vient de sortir de sa cellule royale. Un chant flûté en sol dièse. Et à ce chant répond le couac-couac-couac des jeunes reines qui sont encore dans leurs cellules. Sa notation musicale suggère que les relations entre la note du chant de cornemuse de la princesse qui vient de quitter sa cellule et les notes des réponses des princesses qui ne sont pas encore sorties de leurs cellules correspondent le plus souvent à des consonances harmonieuses, des accords harmonieux, une quinte parfaite ou une tierce majeure.
C'est très musical, le chant des abeilles, comme l'entend là dans la bouche de Jean-Claude Amezen sur France Inter, Patrick Chollet.
Oui, bien sûr, nous on entend ça très souvent dans la journée, donc c'est très agréable. On se lasse pas en fait, c'est quelque chose qui est intéressant et moi je découvre tous les jours des nouveautés, donc c'est bien, on apprend tous les jours, c'est au moins un métier où malgré les difficultés, on arrive à entendre beaucoup de choses.
Vous disiez que vous étiez passé de 400 ruches à 250 parce qu'il fallait baisser la production. Christian Moll aussi est en train de baisser. Malgré tout, 250-300 ruches, c'est bien au-dessus de la moyenne, non ? J'ai lu pour préparer cette émission que 91% des apiculteurs possèdent moins d'une cinquantaine de ruches en France.
Alors il y a une grosse différence dans ce que vous dites en fait. Pour être professionnel aujourd'hui en apiculture, il faut 200 ruches, sinon on n'est pas professionnel. Voilà, donc après effectivement aujourd'hui 90% des ruches sont détenues par des amateurs ou des semi-amateurs et 10% par les professionnels, et on va dire qu'on produit nous les professionnels 90% du miel et 10% pour les amateurs. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il y a une différence entre professionnels et amateurs.
Et quand vous dites que vous avez réduit le nombre de ruches, c'est parce que vous êtes obligé de faire face au problème de la mortalité des abeilles, à l'effondrement de la production, c'est quoi ?
Oui, en fait, c'est la charge de travail qui est hyper importante. Moi, je suis plutôt dans cette nature à me dire qu'il vaut mieux en avoir moins et s'en occuper bien que d'en avoir plus et malheureusement ne pas être toujours très, très, très attentif. Donc, c'est un peu ce qui m'a fait changer et descendre. Et comme moi, mon idée, c'est vraiment l'excellence de vous amener le miel que fabriquent les abeilles.
Comme si on le mangeait dans la ruche.
Exactement.
On verra comment vous faites tout à l'heure. Christian Moll, les estimations réalisées par l'Union nationale de l'apiculture française pour la saison 2024 sont franchement maussades. Hein. 12 000 tonnes, les récoltes de miel devraient s'inscrire en recul de 40% sur un an. Il y a 30 ans, elles atteignaient 33 000 tonnes. Donc ça veut dire que les pertes annuelles de colonies sont considérables. Vous qui êtes apiculteur depuis 1983, c'est-à-dire 40 ans, vous avez vraiment constaté cet effondrement et vous le vivez au quotidien ?
Eh ben, je le vis pas au quotidien parce qu'en fait on est dans une région qui est quand même assez favorisée.
L'Ardèche, je le rappelle.
L'Ardèche, et on n'est on est quand même concerné par les problèmes d'utilisation de phytosanitaires, mais beaucoup moins que dans d'autres régions. Et puis, de par mon mode de travail, je fuis les grandes cultures, je fuis les zones qui sont dangereuses pour les abeilles. Et je dirais que moi, je n'ai pas vu de changement. Hein. Depuis la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on utilise des phytos qui sont censés tuer les insectes. Donc, ça marche bien, ça les tue.
Vous, vous êtes en labellisé bio, Christian Moll, dans votre miellerie de Boissy. Ça veut dire quoi, labellisé bio? Je crois qu'il y a des contraintes qui sont gigantesques. Mais comment on empêche les abeilles d'aller butiner dans un champ de fleurs aux pesticides à côté des siennes?
Oui, alors il y a un cahier des charges à respecter, mais on ne peut pas les empêcher d'aller butiner sur le champ de fleurs qui est à côté. Et heureusement, en France, le cahier des charges n'oblige pas à être à... Une abeille butine à 3 km et on n'est quand même pas obligé d'être à plus de 3 km d'une culture traitée.
Et c'est tout ce qu'il y a comme contrainte pour être en bio ?
Non, il y a beaucoup de contraintes dans les méthodes. Il y a un parasite qui est très grave et qui est difficile à réguler. Et donc les méthodes de traitement sont différentes. Les méthodes de récolte, quand j'ai appris l'apiculture, on utilisait un répulsif pour chasser les abeilles des hausses. Ça, par exemple, c'est interdit en bio, mais je pense que c'est même interdit en conventionnel maintenant. Les méthodes de conservation des hausses l'hiver, il y a différentes méthodes, mais voilà, on utilise une méthode qui n'utilise pas de produits.
Patrick Chollet, vous avez fait le choix de ne pas être en bio.
Oui, c'est un peu différent. Moi, j'ai fait le choix de ne pas être en bio parce que, en fait, je trouvais pas vraiment une vraie résonance dans ce mot, en fait. Donc je préfère le mot naturel, ce qui me convient beaucoup mieux.
Préférez faciliter la vie de vos abeilles.
Oui, ouais.
Je veux déjà dire ne pas utiliser de pesticides qui
vous décident. Alors moi j'ai fait un choix un peu différent. Aujourd'hui, je travaille avec une vingtaine d'agriculteurs. Moi j'aime bien les gens qui se parlent, j'aime pas les gens qui se parlent pas. Donc j'ai fait un groupe avec des agriculteurs où on travaille ensemble et il y a des bio, des non bio, des intensifs. Il y a des gens, voilà, et on se parle de façon à faire évoluer les choses, de se faire comprendre les uns aux autres, parce que souvent c'est un problème de communication, c'est-à-dire que les gens ne se parlent pas. Et donc, en fait, là, on est sur à peu près entre 8 et 9 000 hectares, et donc on se parle, on se met autour de la table pour savoir effectivement de faire attention au traitement. Bien évidemment, les traitements, aujourd'hui, les agriculteurs ont recours à ces traitements, parce que sinon, les récoltes sont pas forcément très belles. Donc il faut aussi comprendre ce sujet-là.
Comment vous faites face, vous, par exemple, vous élevez des rennes, vous les sélectionnez?
Oui, aujourd'hui, j'élève mes rennes, je les sélectionne. Enfin, moi, je fais une sélection massale, c'est-à-dire, mon collègue comprendra, je fais que par la femelle, c'est-à-dire que je ne fais pas d'insémination, je ne veux pas de ça. Voilà, c'est une façon de penser aussi. Et en fait, j'essaie d'avoir des colonies qui fonctionnent sur mon secteur, voilà, et qui soient issues de ma fabrication, de façon à ne pas acheter à l'extérieur pour pas importer éventuellement des choses que j'aurais pas envie.
Il y a une histoire d'importation et vous mettez le doigt sur un autre problème aujourd'hui qui touche les apiculteurs de très près et on le voit confirmé dans les enquêtes. Par exemple, dans une enquête publiée en mars 2023, la Commission européenne et l'Office européen de lutte antifraude ont indiqué que près de la moitié du miel importé en Europe était frelaté, le plus souvent par ajout de sirop de sucre, on va le dire comme ça, c'est pas du miel, c'est du sirop de sucre. Comment savoir ce qu'on achète ?
C'est pas simple. C'est pas simple.
Il y a quand même la mention du pays obligatoire aujourd'hui.
Oui, mais alors ça aussi, enfin, on va pas rentrer dans les polémiques, mais vous savez, il faut du contrôle. Il faudra du contrôle, ça c'est la base. Après, c'est aussi une question de conscience. Moi, quand je me lève le matin, j'ai pas envie de frelater mes miels. Même si je vois que des fois sur mon compte en banque, c'est difficile, eh bien, je me dis que mon client en face, il a le droit d'avoir le respect. Et donc, en fait, je lui fais le meilleur miel que je puisse faire. Et quand il y en a pas, il y en a pas. C'est-à-dire que moi, chez moi, des fois, vous avez sur mon site internet, il n'y a plus de printemps, ou il n'y a plus d'été, ou il n'y a plus d'un autre miel. Eh bien, c'est parce que, en fait, voilà, j'ai fait que ce que je pouvais faire. Et vous avez des gens qui, par contre, veulent toujours avoir du produit, et ça, ce n'est pas possible. Donc, en fait, ils ont recours à l'achat, tout simplement.
Les bonnes choses de France Culture ce midi s'intéressent à la profession d'apiculteur. Nous sommes en compagnie de deux apiculteurs passionnés, pourtant le métier est très difficile, Patrick Chollet et Christian Moll. Patrick Chollet est apiculteur dans la Sarthe et Christian Moll est apiculteur en Ardèche.
Les gens recherchent avant tout un terroir. Je compare souvent le miel à un vin, c'est-à-dire il a un goût particulier là où il est fait. Donc les gens vont rechercher un tilleul, par exemple, de Picardie, vont rechercher un châtaignier des Yvelines. C'est-à-dire que ils ont peut-être en mémoire des miels de leur enfance et ils veulent retrouver ce goût.
Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick Chollet, de ce qu'on vient d'entendre? C'est l'apiculteur Yannick Pertraud qui s'exprimait dans Les Bonnes Choses en 2019. Lien avec le terroir, c'est vrai, quand on achète un miel, moi j'ai pas spécialement l'impression d'aller chercher vraiment le terroir, mais plutôt un goût particulier, le goût du châtaignier, qui est lié, et Christian Moll ne le contredira pas, en particulier à l'Ardèche. Mais bon, on a...
Patrick Chollet. J'ai vraiment apprécié ses paroles. Je trouve que c'est vraiment... moi, c'est ce que je pense aussi. C'est-à-dire que on n'aura pas le même miel, par exemple, de tournesol dans le sud que par exemple dans la Sarthe. Moi, je le vois bien puisque je fais du miel de sarrasin, par exemple, et je suis voisin avec mes amis bretons, et ils sont sur des terres de schiste. Et bien évidemment, nous, on est sur de la géo-calcaire. Ça, c'est un peu technique pour la terre, mais bien évidemment, la plante ne se nourrira pas de la même manière puisqu'elle n'aura pas autant d'exercices à faire chez nous qu'elle a à le faire en Bretagne. Et c'est ce qui fait aussi l'originalité dans les miels, c'est justement d'arriver à avoir ces côtés terroirs que moi j'adore.
Et puis, comme un vin, donc, comme il le disait.
Exactement, exactement. C'est-à-dire que on pourrait goûter nos miels avec mon confrère d'aujourd'hui, mon collègue d'aujourd'hui, et on s'apercevrait qu'on se régalerait tous les deux, puisque on a des terrains qui sont complètement différents les uns des autres.
Mais ça voudrait dire que votre miel de châtaignier, puisque vous en faites, Patrick Chollet, serait nécessairement différent du miel de châtaignier de Christian Moll, qui est en Ardèche?
Ah ouais, ouais, ouais. De toute façon, le miel de châtaignier sera obligatoirement différent, puisque moi j'ai une technique pour le faire. J'essaie de pas avoir trop d'amertume dans mon miel de châtaignier, même si c'est ce qui a fait sa réputation. Moi, l'amertume, c'est pas ce que je vais chercher dans un miel. Je vais plutôt chercher un côté sucré. Mais effectivement, les terroirs seront différents, et je pense qu'il y aura quand même des différences.
Christian Moll, il ressemble à quoi votre miel de châtaignier? Est-ce qu'il est amer ou est-ce qu'il est sucré?
Le châtaignier, c'est pas moi qui décide le goût, c'est les fleurs et c'est les abeilles, ce qu'elles trouvent. En fait, la miellée, c'est juste le moment où les fleurs, elles ont besoin de se faire féconder. Et il faut qu'à ce moment-là, il y a des conditions météo favorables, de façon à ce qu'elles sécrètent du nectar. Et ben, des fois, par exemple, sur le châtaignier, il peut y avoir des pucerons. Donc, du coup, c'est pas qu'un miel de fleurs, c'est du miel à... Il y a des ronces en même temps. Et si c'est une année sèche, les ronces, elles donnent rien. Mais si c'est une année bien humide, la fleur de ronce, elle est très appréciée par les abeilles. Et du coup, ça va adoucir le miel de châtaignier. Et moi, d'une année sur l'autre, il est différent.
Et oui, des c'est fois, ça. Le miel est différent d'une année sur l'autre.
Et il y a le tilleul qui va se mélanger.
Ouais. Et il évolue avec le temps, le miel.
C'est toujours une surprise.
Il évolue dans le temps, en plus, le miel.
Une fois qu'il est récolté, s'il est stocké dans de bonnes conditions, il évolue pas tant que ça.
Mais il y a bien un phénomène. Voilà, il y a un phénomène de cristallisation.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce qui fait, Patrick Chollet, qu'il y a des miels crémeux et d'autres liquides?
Alors,
il y a un moment où la main de l'homme agit, non, sur le miel.
Les miels liquides en France, il y en a très peu, pour pas dire pas beaucoup. La cristallisation, en fait, c'est un phénomène chimique de réaction. En fait, on a 4 sucres à l'intérieur, et donc si on est au-dessus de 34 degrés, puisque c'est ce qui fait que dans une ruche on a 34 degrés, donc le miel est sous sa forme liquide. Et dès que vous allez le mettre dans une température plus basse, bien évidemment, il va cristalliser. Donc c'est un phénomène naturel. Donc après, vous avez des gens qui faussent ce phénomène naturel en le mettant crémeux. C'est-à-dire que j'ai vu des apiculteurs, moi par exemple, brasser leur miel. C'est un produit. Moi, il n'y a aucun problème là-dessus, mais ce n'est pas le produit d'origine. D'accord? Comme le miel liquide, il y a des gens qui vont vous faire que du miel liquide. Ben, moi, je suis admiratif. Je ne sais pas faire que du miel liquide.
Mais vous savez en faire. Le miel de châtaignier, il est liquide, par exemple, non?
Alors, il va rester liquide un certain temps, mais il va cristalliser. Comme disait mon confrère, effectivement, on va arriver à un moment où il y aura peut-être d'autres plantes qui vont être à l'intérieur, et donc ça va changer un peu la texture de notre miel. Non seulement le goût, mais la texture.
Vous, Patrick Chollet, vous faites des miels monofloraux, autrement dit d'une seule fleur.
Mais non, je ne fais pas que ça, mais...
Mais beaucoup, oui. Parce que vous faites aussi des miels de fleurs de printemps au pluriel, des fleurs d'été au pluriel. Il y a des saisons, de toute façon.
Oui, il y a des saisons. Moi, c'est vrai que ma particularité, c'est-à-dire que j'ai fait un peu ce qu'on entendait tout à l'heure avec... avec le petit intermède que vous aviez passé. C'est-à-dire que moi, je me rapproche un peu des vins. Et je trouve que le miel, en fait, il faut... on a tellement de saveurs. C'est-à-dire souvent, les gens me disaient « j'aime le miel ou j'aime pas le miel ». Mais quel miel vous aimez et quel miel vous n'aimez pas? Et en fait, en faisant goûter tout le panel que j'ai, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on fait
11 miels. Vous avez 11 miels.
On a 11 miels différents qui sont faits à maxi 50 km de chez nous, puisque moi, je transhume très peu, ou je fais des transhumances très courtes. Et donc, en fait, moi, je les ai classés un peu comme des vins. C'est-à-dire que plus ils vont avoir de glucose, plus ils vont avoir des goûts un peu doux. Et on va monter en allant chercher justement des saveurs qui sont soit inexistantes de ma gamme, soit que j'ai envie d'avoir moi pour pouvoir proposer aux gens qui veulent manger des choses un peu différentes.
Et le printemps, c'est la saison des fleurs, c'est là que les abeilles travaillent le plus ?
Oui, enfin, je sais pas si elles travaillent le plus à cette saison-là, mais oui, effectivement, le printemps, c'est la sortie de l'hiver, donc les arbres, bien évidemment, ont envie de se faire polliniser, hein, parce que c'est pas un plaisir, ils ont une obligation s'ils veulent faire des fruits, des graines, et effectivement, les abeilles sont assez actives à cette saison-là.
Mais vous voulez produire du miel que personne ne fait, alors c'est non seulement elles n'ont que souvent une fleur dedans, mais en plus vous faites des miels qu'on ne trouve nulle part ailleurs, à vrai dire, alors, aux fleurs de carottes, de coriandre, de luzerne, de pommier, d'oignons. C'est quoi l'idée d'aller faire des miels qu'on ne trouve nulle part ailleurs?
Ah ben justement, c'est ça l'originalité, en fait. C'est en fait, je me lève le matin et plutôt que de dire je vais faire quelque chose... Alors déjà, le métier est dur, hein, moi je le dis. Moi, je fais pas de quantité, en fait. C'est pas mon objectif. C'est-à-dire que je ne me dis pas, tiens, j'ai fait que 25 kilos, par exemple, de pommiers ou j'ai fait que 50 kilos de carottes. Moi, c'est me dire, j'ai ce miel-là, en fait. J'ai envie de le faire goûter, j'ai envie de le faire déguster, j'ai envie d'aller chercher les choses que la nature nous offre et que souvent on passe à côté parce qu'on est dans une société un peu de production. Et moi, au contraire, j'ai pris le pied inverse du métier que je faisais avant et j'essaie d'aller chercher des choses intéressante, donc c'est pour ça qu'on, avec les agriculteurs, on est une région à porte-graines. Alors porte-graines, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous voulez des carottes dans votre jardin, il faut que quelqu'un les ait créées à un moment donné, enfin les ait produites, et les agriculteurs en fait vont semer 50, 60 hectares de fleurs de carottes. Et à ce moment-là, on peut faire un miel de fleurs.
Ah oui, c'est pour ça, vous vous contentez. Disons que vous restez cantonné, plutôt que contenté, vous restez cantonné dans ce champ de carottes, parce qu'on se demande comment on arrive à faire un miel qui a que de la carotte dedans. Ouais.
Alors que de la carotte, déjà, ça serait mentir. On a une législation qui permet de dire qu'à 80% de pollen de carotte, on peut afficher le monofloral. Donc moi, ils sont tous analysés. Hein. Moi, j'ai un cahier de suivi et ça m'arrive de déclasser des miels de fleurs de carotte, par exemple, parce que mes abeilles ont été jouées ailleurs. Elles ont trouvé des fleurs qui sont meilleures ailleurs.
Encore une fois, on ne les tient pas toujours.
Non, on ne les tient pas et c'est justement là la différence.
Et vous, Christian Moll, alors c'est des fleurs, des miels de fleurs d'Ardèche et de Provence. Vous avez du miel de romarin, du miel d'acacia, châtaignier, bien évidemment, lavande, sapin, montagne. À l'instant, Patrick Chollet disait que ces abeilles ne transhumaient pas beaucoup. Vous, si, elles transhument.
Oui.
La transhumance permet aux ruches de suivre les floraisons depuis la région du sud-est de la France jusqu'au plateau ardéchois. Mais ça veut dire quoi exactement, transhumance? C'est-à-dire que c'est vous qui les emmenez quelque part et puis après, elles remontent toutes seules? Comment ça se passe?
Oui, ben c'est ça, je les amène quelque part. J'essaye de les mettre toujours dans des endroits qui leur sont favorables. En fait, il faut expliquer que l'abeille mellifère, c'est une des 1000 espèces d'abeilles qui habitent en France, mais c'est quasiment la seule qui vit en grosse colonie. Et qui dit vivre en grosse colonie, ça veut dire que du coup, il y a une communication, il y a des éclaireuses qui sortent le matin, qui repère les fleurs intéressantes et qui l'indique aux autres. Et du coup, l'abeille mellifère, elle est intéressée que par les grosses populations. Par exemple, vous parliez des carottes tout à l'heure, le jardinier qui laisse fleurir ses carottes, ça va pas forcément intéresser les abeilles du secteur parce que il y en a pas assez. Elles préfèrent une forêt d'acacia, une forêt de châtaignier, un grand champ de tournesol, un grand champ de colza. Voilà, bah c'est son organisation. Elle va sur ce qui peut permettre d'occuper 10 000, 20 000 abeilles.
Oui, pardon. Comme vous êtes à distance, c'est difficile. Je ne sais pas si vous vous arrêtez ou si vous voulez continuer.
Je peux continuer, mais peut-être qu'il faut avancer.
Effectivement. Patrick Chiollet, avant de vous demander quel est le goût du miel de carotte, qui n'est pas forcément, j'imagine, un goût de carotte, je voudrais vous poser la question de la diversification, et d'ailleurs à tous les deux, parce que compte tenu des conditions actuelles et de la difficulté du métier, j'ai cru comprendre que les apiculteurs étaient obligés de se diversifier. Et vous faites tous les deux pas que du miel. Vous, par exemple, Patrick Moll, vous faites des pains d'épices, et d'ailleurs vous nous avez offert la recette du pain d'épices, votre miel, on vous remercie pour le site de l'émission, et vous faites tous les deux de l'hydromel, par exemple, Patrick Chiollet.
Oui, alors moi, c'est en petite quantité aussi, mais effectivement, on est obligé de se diversifier, je pense, aujourd'hui, parce que la matière première, c'est pas ce qui est le plus valorisé. Donc, on fait des produits un peu différents. Donc, moi, je fais ceux qui me correspondent un peu plus, par exemple, comme l'hydromel, parce que je fais des hydromels de garde, parce que c'est ma façon de travailler. J'essaie de faire des vieillissements, fût d'acacia, etc. Et puis, on fait des vinaigres aussi. Voilà.
Vinaigre de miel.
Je fais du vinaigre de miel. Moi, je fais pas de pollen parce que c'est dans ma culture de pas vouloir enlever le pollen de mes abeilles. Mais voilà, tout est possible en fait.
Alors, qu'est-ce qu'il a comme goût, le goût de miel de carotte?
Alors, le goût de miel de carotte, moi, j'adore. C'est ce qui a fait un peu ma signature à l'époque où je l'ai sorti. C'est un miel qui en fait a des connotations un peu chocolatées, un peu fève de cacao brute. Et moi j'aime ce miel-là parce que c'est un miel qui arrive dans le milieu de gamme et qui en fait va amener un goût très très particulier sur les viandes par exemple, sur les légumes, et ça plaît beaucoup aux chefs avec qui je
travaille. Mais vous essayez de dire à tous les chefs avec qui vous travaillez, Patrick Chiollet, qu'il faut pas trop cuire le miel, plutôt quand vous l'utilisez en cuisine, le mettre en fin de cuisson. Ça c'est valable pour tous vos miels.
Ouais, ça c'est valable pour tous les miels. En fait, si on veut pas les abîmer, garder toutes les saveurs gustatives, il faut très peu chauffer le miel.
Alors, la liste des revendeurs du miel de Christian Moll est sur le site de la miellerie des Boissy. Vous, Patrick Chiollet, on est d'accord, le grand public peut quand même acheter le miel. Vous ne le réservez pas à tous les grands chefs restaurateurs gastronomiques.
Non, heureusement qu'on a beaucoup de particuliers. Il n'y a pas de souci, ils peuvent acheter chez nous.
On va sur le site aussi.
On va sur le site et on trouve tous nos produits.
Eh ben, merci à tous les deux.
Mais où sont passés les abeilles?
Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people.
Il était une fois un monde sans pesticides où les plantes poussaient au rythme des saisons. Pas de particules fines ni de pluies acides. Le soleil et l'eau comme une bénédiction. Aucun monstre de fer pour labourer les champs. Fertile était la terre sans métaux polluants. Les agriculteurs vivaient en bonne santé. Ils étaient bâtisseurs de notre humanité. Tout comme ces abeilles qui vont de fleur en fleur et de leur butin créent des frères et sœurs. Il existe un lien pour tisser le vivant. Un fil très fragile pour l'avenir de nos enfants.
Toutes les informations sont à retrouver sur notre site franceculture.fr pour télécharger cette émission et toutes les bonnes choses de la chaîne. C'est sur l'application de Radio France avec Siam Boutata, Audrey Carm, Fanny Constant et aujourd'hui à la prise de son François Saint-Jour. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture.